VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Mali, au moins 3 casques bleus de l'ONU et un militaire malien tué ce vendredi lors d'une attaque dans le nord-est du pays. C'est ce qu'annonce un communiqué de la MINUSMA, la mission des Nations Unies sur place. Ce matin, dans la région de Ménaka, un détachement de la force de la MINUSMA a repoussé une attaque lors d'une opération coordonnée avec les FAMA, les forces armées maliennes, précise le communiqué, qui fait état dans son bilan provisoire de 3 casques bleus tués, plusieurs blessés, dont certains dans un état critique, ainsi que d'un militaire malien tué et un autre blessé. Selon la MINUSMA, plusieurs assaillants ont été abattus et d'autres blessés lors de la riposte des casques bleus et des forces armées maliennes. Zimbabwe, le nouveau président Emmerson Mnangagwa a définitivement tourné ce vendredi la page des 37 ans de règne autoritaire de Robert Mugabe sur le pays en prenant serment à Harare devant des dizaines de milliers de partisans pleins d'espoir. Emmerson Mnangagwa a promis un peu plus tôt à son prédécesseur Robert Mugabe et à sa famille une sécurité totale, a rapporté le quotidien d'État The Herald. Robert Mugabe n'a pas assisté à la cérémonie d'investiture de son successeur. Avant la prestation de serment, Emmerson Mnangagwa a affirmé qu'il ferait du redressement de l'économie zimbabwéenne sa priorité absolue. André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud, UNISA, situe ici les perspectives pour le nouvel homme fort du Zimbabwe.
Je pense que s'il sera convaincu de la nécessité d'avoir des élections crédibles pour pouvoir refinancer l'économie du Zimbabwe, pour pouvoir lancer la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures, alors là, oui, il le fera. Il cherchera l'appui, il cherchera la légitimité, surtout dans des alliances tactiques, peut-être avec des organisations civiques américaines ou européennes, pour assurer que le pays Zimbabwe pourrait retrouver son rating, sa fiabilité pour les banques internationales, pour le Fonds monétaire, pour la Banque mondiale, parce que lui, comme tacticien, un architecte du pouvoir, il sait très très bien que sans des injections de capital importantes, le Zimbabwe ne trouvera pas une stabilité sociale ni un avenir qui satisferait les aspirations de la population. Mais une majorité au Zimbabwe ces jours-ci cherche une stabilité, il cherche un renouvellement et surtout une reconstruction de l'économie du pays qui est en faillite.
André Thomas Hausen, professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA en Afrique du Sud. Toujours concernant l'Afrique du Sud, la Cour suprême sud-africaine a condamné ce vendredi l'ancien athlète paralympique Oscar Pistorius à 13 ans et 5 mois d'emprisonnement pour l'assassinat de sa compagne Riva Steenkamp le jour de la Saint-Valentin en 2013. Dans son arrêt, la plus haute juridiction d'Afrique du Sud fait droit à la demande du parquet qui a fait appel à 2 reprises dans cette affaire, estimant que la peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée précédemment contre l'athlète était scandaleusement inappropriée. Oscar Pistorius, absent lors de l'audience de vendredi, est détenu depuis le mois de juillet après avoir été reconnu coupable du meurtre de son ancienne petite amie Riva Steenkamp. Au Cameroun, la crise anglophone s'invite à l'Assemblée nationale. Les quelques 18 députés du SDF, le Social Democratic Front anglophone, principal parti d'opposition, ont perturbé hier la session parlementaire. Ils exigent l'ouverture d'un débat sur la crise, sur le sens de leur mouvement. Écoutons Joshua aussi, premier vice-président et député SDF.
Nous avons dit qu'il n'y aura pas de travaux tant que ce point ne sera pas mis à l'ordre du jour. On ne peut pas continuer à prétendre qu'il n'y a pas de problème au Cameroun alors que des milliers de Camerounais meurent tous les jours. Donc il faut absolument, on ne peut pas laisser ce gouvernement continuellement jouer comme un régime de l'apartheid, comme si le reste des Camerounais ne comptait pour rien. Nous avons dit que s'ils ont peur du président de la République, qu'ils nous disent que c'est lui qui bloque. Si ce n'est pas lui qui bloque, ils ont l'obligation d'apporter ça sur la table du Parlement. Si c'est lui qui bloque, nous allons prendre d'autres actions pour que ça arrive. Mais il faut absolument qu'il y ait un débat politique sur cette crise et que le gouvernement vienne répondre de ses actes devant le Parlement.
Joshua aussi, député SDF et premier vice-président de cette formation politique anglophone.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
À Goma, RDC, cri de détresse des jeunes face au montant exorbitant de la dot demandée par les familles de leur future épouse. Reportage sur place de notre correspondant Charlie Kasereka.
Pour les non-initiés, la dot est une négociation complexe et très formelle entre les deux familles pour parvenir à une entente sur les prix que les fiancés aura à verser pour pouvoir épouser la fiancée. John Mukengera vient juste de verser sa dot à sa belle famille. Ça n'a pas été chose facile pour lui.
C'est entre 2000 et 2500. La dot est exorbitante aujourd'hui et il n'y a pas de travail. Donc pour moi et pour tous ceux qui sont en train de se préparer pour cette épreuve, c'est tout à fait un combat des titans, c'est grave.
Sans emploi ni activité stable, les jeunes qui aspirent au mariage sont découragés par cette dot coûteuse et décourageante. Fiston cohabite avec sa femme depuis 8 ans. Ils ont eu ensemble 4 enfants. Il n'a pas réussi à réunir la somme de 2000 dollars demandée par sa belle famille.
Non, moi je n'avais pas donné la dot normalement. Cette dernière a véritablement perdu sa valeur. C'est devenu un fonds de commerce où l'on la valorise en argent. Moi, la somme qui m'a été demandée était trop lourde pour moi. Je n'ai pas de travail.
Pour M. Bahati, la trentaine, coiffeur dans un salon de coiffure ici à Goma, lui aussi, père de 4 enfants, qui vit avec sa conjointe dans la même situation, lui pense que les parents qui ont des filles doivent considérer la dot comme un symbole et non une occasion pour s'enrichir.
L'affaire dot est devenue anormale. Moi, je dirais aux parents qui ont encore des filles sous leur toit, la dot, c'est juste un symbole et non pas une revanche pour s'enrichir en énumérant toutes les dépenses.
Madame Agapé, la trentaine, elle a vécu 6 ans avec le père de ses 3 enfants, qu'il a ensuite abandonné. Elle pense que si la dot avait été versée à sa famille, son ex-mari n'aurait pas agi ainsi. Aujourd'hui, elle prend seule en charge ses 3 enfants et regrette les choix qu'elle avait faits.
La dot donne la valeur à la femme. Et pour les hommes, le fait de verser la dot à ta belle famille n'est pas à dire que tu as le droit de maltraiter ton épouse.
Alors, quelle valeur peut-on donner à la dot? Difficile à trancher. D'autres voulaient que la pratique soit uniformisée par une loi, mais avec plus de 400 groupes ethniques comptés en RDC, avec bien sûr différentes coutumes, c'est une mission difficile, pense Justine Massika, cadre de la société civile en RDC.
Normalement, la loi congolaise, elle est vraiment très claire, on réfère à la coutume. Et c'est donc difficile qu'on puisse dire que la loi peut être uniforme. Et je crois que c'est à nous, de la société civile, de sensibiliser tout le monde pour qu'il sache que la dot, c'est vraiment un symbole.
Dans certaines familles, elle a pris des allures d'une facture globale, incluant tous les frais et les dépenses consenties durant l'éducation et la formation de la jeune fille offerte en mariage, ensuite d'une grande cérémonie de mariage qui doit suivre les passages en mairie et l'accord de l'état civil. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Veillée de prière hier soir au Vatican pour les victimes des crises au Soudan du Sud et en RDC. Le pape François a lancé un appel contre les massacres de femmes et d'enfants. Eric Manirakiza.
Dans son homélie dans la basilique Saint-Pierre, le souverain pontife a voulu jeter des semences de paix dans la terre du Soudan du Sud et de la RDC, ainsi qu'en toute terre blessée par la guerre. Le pape François a notamment évoqué les murs de l'inimitié existant dans ces deux pays. Il a déploré des conflits qui volent leur enfance et leur vie. Quelle hypocrisie, dit-il, de nier les massacres de femmes et d'enfants, indiquant que la guerre montre son visage le plus horrible. Des chants festifs en langue swahili d'un petit cœur africain ont accompagné la messe et la procession d'entrée de fidèles, portant beaucoup de grandes photographies d'enfants du Soudan du Sud et de la RDC déposées sur des chevalets. Le pape a renoncé à se rendre au Soudan du Sud en mai dernier. Il voulait aussi aller au Congo-Brazzaville et coupler ce déplacement avec la RDC, mais il a changé d'avis à cause du maintien au pouvoir de Joseph Kabila.
En Égypte, au moins 54 personnes tuées ce vendredi lors de l'attaque d'une mosquée par des hommes armés dans le nord du Sinaï égyptien, selon la télévision d'État. Au moins 75 personnes ont été également blessées dans cette attaque qui a visé les fidèles pendant la grande prière hebdomadaire du vendredi, affirment les autorités. Et pour terminer, en Libye, le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale promet que les conclusions de son enquête sur des cas d'esclavage en Libye ne seront tardées et que les responsables seront traités sans indulgence. L'État libyen ne tolérera pas que les victimes de l'immigration soient traitées autrement que dans le respect de leur humanité, a affirmé le ministre Alaref Al-Khodja lors d'une conférence de presse jeudi à Tripoli en présence de plusieurs diplomates africains réunis dans le principal centre de rétention des migrants dans la capitale libyenne. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.